Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Hervé Dubois et c'est l'heure de l'interview avec la compagnie de Jean-Michel Pouzet. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel Pouzet, vous êtes auteur, plasticien, photographe et vous exposez à partir du 27 juillet donc à l'ancien monastère de Sainte-Croix une exposition intitulée « Vision subjective ». Et ce sont des photographies exposées jusqu'au 31 août. Alors, peut-être expliquer ce titre, vision subjective, ce néologisme, pour vous, qu'est-ce qu'il implique ?
Oui, c'est une petite blague, en fait. C'était un sourire à mes amis photographes, où dans notre secteur, on est toujours dans un débat entre l'objectivité et la subjectivité de l'image. Un débat que bon, je considère un peu dépassé parce que moi, la photographie est aussi un moyen d'expression et on n'a plus à se préoccuper de ce sujet-là. Dans d'autres domaines artistiques, il y a longtemps qu'on ne parle plus d'objectivité et de subjectivité. Alors j'ai mis le préfixe « sur » pour évoquer un petit peu les surréalistes qui, eux, à partir d'un moyen d'expression artistique, l'utiliser à plein, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, la surjectivité. Puis en même temps, pour ceux qui ont fait des maths modernes, c'est aussi une notion de maths entre l'injection, la bijection et la surjection. Et moi, ça m'intéresse bien ce précepte-là parce que ça allie deux ensembles. Et deux ensembles, pour moi, sont la littérature et l'image. Dans mes expositions, j'associe un texte purement littéraire à l'image. Mais là, je vais peut-être un peu trop loin parce qu'en fait, c'est faux. C'est c'est l'image qui est prioritaire et c'est le texte qui est déterminé par l'image. Voilà.
Ce sont des grandes images que vous proposez en vision sur ce lieu de l'ancien monastère.
Oui, c'est des grands formats présentés sur des plaques d'aluminium, hein, du Dibon. C'est des grands formats très, très colorés. Des grands formats d'1m20 sur 2m40. Enfin, quand je dis 2m40, les 2m40 sont composés de 3 tableaux de métier. C'est cet ensemble qui forme pour moi une série.
Voilà. Alors, vous procédez par abstraction, hein, sur l'ordre de prise de vue
Non.
Non, pas non, forcément non.
Pour moi, ce n'est pas de l'abstraction. Hein. Je photographie des objets qui sont bien réels. Sans trucage, plein format, il y a pas de mise en scène non plus. Et puis ces objets qui sont photographiés souvent en gros, qui sont toujours photographiés en gros plan, ont perdu leur identité de par une façon de les mettre en image et force l'imaginaire, force cette imagination que moi je retranscris après dans un texte purement littéraire à côté.
J'avais cette précision du fait parfois de ces objets pris peut-être même ôtés de leur contexte et apparaissant très très dénués.
Oui, parce qu'en fait, quand on fait des gros plans, on isole l'objet de son environnement et on perd tous les liens identitaires en fait de l'objet. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien ce qu'il est. Et moi, je rajoute un élément supplémentaire au gros plan qui est toujours un ciel important, comme si on réintégrait cet objet dans un nouveau paysage. Et ça force encore un peu plus l'imaginaire.
Ce sont des photographies prises avec des chambres ou alors vous avez un appareil plutôt plein format
Non, moi, c'est un appareil très courant. Bon, un bon appareil photo, mais bon, sans excès. Voilà. Je mets pas en avant la technique, je mets avant tout l'expression.
C'est aussi saisir un instant, une image qui vous parle.
Ouais, c'est vraiment le hasard de rencontre, mais avec des choses comme ça qui me flashent. Mais c'est toujours dans des circonstances un peu spéciales de lumière très intense, des lieux où il y a beaucoup de couleurs. Voilà, il faut ces circonstances-là pour moi.
Vous parliez en début d'émission de ce terme mathématique. Est-ce que pour vous, les mathématiques font partie de ce travail que vous proposez également ?
Non. Non, non, c'est un sourire. C'est juste un sourire comme ça, au passage, pour prendre en compte le terme de la surjectivité. Voilà. Mais bon, non, non, les maths, je suis plutôt littéraire. Enfin, même si j'étais prof d'économie auparavant, je suis plutôt littéraire.
Justement, vous vous définissez comme photographe, auteur, plasticien, auteur.
Photographe-auteur, parce que c'est photographe-auteur, ça veut dire que j'essaie de mettre une signature, un style. Hein, ça veut dire ça, auteur. Hein. Et plasticien, parce que je me démarque un peu de la photographie dite de style documentaire, où on représente quelque chose de réel, un événement, un fait. Hein, c'est, moi, je me départis de cette photographie-là. C'est plutôt la photographie dite plasticienne. Oui.
Certaines images sont très lumineuses. Est-ce que c'est cette recherche de lumière que vous tentez aussi de réinterpréter ?
Ah oui, il y a toujours beaucoup de lumière, en effet, oui. Toujours beaucoup. Je ne pourrais pas montrer, exposer une photographie terne. Il y a de la couleur, c'est joyeux, quoi. C'est pas la photographie contemporaine, hard. Voilà. C'est joyeux, on va dire.
La photographie, c'est un médium que vous avez rencontré assez depuis longtemps. Et est-ce que vous avez évolué? Vous avez le sentiment d'avoir évolué sur un domaine dans votre expression?
Oh, moi, je pratique la photographie depuis très très longtemps. Quand j'étais en fac à Nantes, j'avais constitué un groupe de photographes amateurs où on faisait tous ensemble des reportages, des expositions, mais plutôt dans la photographie qu'on appelait humaniste à l'époque, hein. Mais bon, sans grande prétention. Puis moi, au fur et à mesure, j'étais plutôt attiré par la couleur, et la couleur, c'était pas facile à traiter en argentique. Et quand le numérique est apparu, ça m'a vraiment sauvé, ça m'a donné une possibilité supplémentaire de faire ce que je voulais, quoi.
Ce progrès du numérique dans le domaine de la photographie, qu'est-ce que vous lui trouvez comme avantage pour votre mode d'expression ? Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité de modifier, de saturer un peu les teintes, ou alors vous essayez d'être le plus fidèle possible à la prise de vue ?
Bon, moi, je fais très peu de manipulation. Hein. Je suis pas un adepte de Photoshop. Je sature un peu les couleurs. J'augmente un tout petit peu les contrastes. Puis je m'en tiens à ça. Sinon, c'est des photographies plein format. Et je répète, il n'y a pas de mise en scène. Voilà. Donc, je suis pas dans le numérique où on modifie l'image à volonté.
C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion, c'est un métier qui n'existe pratiquement plus d'ailleurs, c'était le tireur, parce qu'il y avait le preneur de vue ou le photographe qui passait aussi par le biais d'un tireur sur papier, avec tout un savoir-faire pour mettre aussi appuyer sur des points essentiels de l'image. Est-ce que c'est une activité qui vous intéressait à ce moment-là, ou alors vous en êtes complètement détaché?
Mais moi, avec les formats que je présente, c'est le travail individuel à la maison est quasi impossible. Il faut des grosses machines. C'est des formats importants. Donc, je travaille avec une imprimerie à Nantes qui est un peu spécialisée dans ce domaine Il est vrai qu'on est très scrupuleux sur le rendu des couleurs, sur le rendu des couleurs principalement.
Vous utilisez d'ailleurs un étalonneur lors de ces prises de vue?
Non.
Non.
Non, non.
C'est votre souvenir qui prévaut sur le final de l'image?
Ah, le souvenir, plutôt ce que je m'en fais, oui. Ce que je vais m'en faire, oui. Comment je vais l'interpréter, oui.
Alors, avec ces images, sont associés aussi des textes d'une vingtaine de lignes. Pour vous, ces textes sont inspirés de ces images ou alors il y a une espèce d'antagonisme entre l'image et le texte?
Non, non, mais le texte est purement littéraire, ça donne aucun indice sur la réalité de l'image. Ils sont purement littéraires, mais ils sont l'évocation personnelle de ces images. Il y a plein de petites références de littérature, d'histoire, artistique dans ces textes-là. Ils sont sur un ton de dérision et un peu rigolo, mais il y a un fond social important.
Il y a aussi le terme de surréalisme, comme vous le disiez aussi en début d'émission. Est-ce qu'il y a cette inspiration de cet art?
Ah oui, complètement, oui, parce que on s'échappe vraiment de la réalité, oui. On va au-delà, oui. J'ai d'ailleurs participé plusieurs fois au Festival de la photographie surréaliste à Fréjus, où j'avais été une invitée découverte il y a 3 ans.
Quels sont d'ailleurs ces mouvements surréalistes? Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré ou donné envie de photographier?
Oui, c'est vrai, oui. Man Ray, par exemple. Man Ray qui était déjà dans cette photographie où je retrouve un peu des racines, quoi. Effectivement, il photographiait vraiment au-delà de la réalité. Vous voyez ce corps nu, là, vu de dos, avec les deux S qui évoquaient une...
Un violoncelle,
ouais. Ouais, Man Ray, c'était les années 20-30 et était largement en avance sur la photographie contemporaine.
Et justement, vous citez cet exemple d'image. Est-ce que vous intervenez aussi dans le cadre du sujet photographié par un mode d'expression plastique, peut-être non, pour appuyer, non, peut-être non, un propos?
Non, non, justement, la base, c'est de montrer que la réalité d'un objet qui est transcendé, quoi. Je ne veux pas toucher à la réalité de l'objet photographié. Mais en même temps, la façon de le voir nous projette ailleurs.
Et ça vous inspire peut-être pour des vues, pour la suite, d'autres idées d'images?
Oh, ça fait. Je suis dans ce style-là depuis plus de 15 ans maintenant, où je fais des expositions de ce style-là. Oui, je continue. Dès que je trouve des sujets, je continue dans cette voie. Oui, ouais, bien sûr.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5.
101.7.
FM.
Comment peut-on définir aussi votre travail? Il y a des formats verticaux, horizontaux. Est-ce que ce sont des paysages également ou des univers peut-être?
Oui, il est vrai que je privilégie souvent le format vertical. Naturellement, je ne sais pas, ça donne un élan supplémentaire, une vision sans doute plus axé vers les cieux, peut-être, oui. C'est vrai que le vertical est privilégié.
Ces textes qui accompagnent ces photographies, c'est aussi trait au surréalisme. Et est-ce que Il y a une invention perpétuelle du surréalisme dans son discours, dans son vocabulaire également.
Ces textes sont je répète un peu, c'est un peu des farces. C'est un langage très, 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 très axé sur la dérision, mais s'en dégage quand même un fond social vraiment important, moralisateur. J'aime pas ce terme pourtant, mais du comportement de l'humain, oui.
Comment apparaît justement l'humain sur vos images ?
Nullement. Nullement, il y a.
Ne serait-ce que par par rapport à sa création que vous prenez en photographie, quand même.
Il y a pas d'humain, non. C'est l'objet. Ça reste un objet. Mais je pense que derrière ce type de prise de vue se dégage justement quelque chose qui est humain. Comment dire ? La façon de l'avoir photographié le rend vivant, quelque part. Lui donne un côté humain.
Lors de ces prises de vue, vous avez votre sujet à photographier. Est-ce que vous avez l'image concrète, finale, qui apparaît déjà dans votre regard et que vous essayez ensuite de transférer sur cet appareil photographique ?
Non, quand je fais les prises de vue, je sais absolument pas ce qui va se passer après, quoi. Je fais des prises de vue sur des choses qui m'attirent. Je suis attiré par, bon, je disais tout à l'heure, les lumières, des couleurs vives, des lignes, des formes, souvent des courbes, mais je sais pas ce que je vais en faire après. Je sais pas ce que je vais en faire et c'est après la, après le tri que j'en fais sur mon ordinateur, que ça dégage quelque chose.
Et par rapport justement à votre travail de photographe, vous dites avoir pratiqué depuis la faculté ou l'université. Est-ce que vous avez aussi rencontré des photographes qui vous ont guidé aussi dans la manière d'appréhender une certaine réalité ?
Oui, il y a un photographe que j'aime beaucoup, Franco Fontana, photographe italien, qui photographiait, je dis photographiait parce que c'est un très vieux monsieur maintenant, qui photographiait des paysages du nord de l'Italie, mais il les photographiait en présentant la volupté de ce paysage avec des grandes plages de couleurs. Ça, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un d'autre aussi, un coloriste, John Bateau, qui photographiait avec des couleurs très vives les parasols sur les plages. En réalité, c'est les coloristes, moi, qui m'attirent beaucoup. Ils sont relativement rares.
Comment, justement, quand vous parlez de couleurs, elles sont presque à la limite saturées, hein, sur vos tirages.
Elles sont saturées, oui.
Mais ce sont des images, c'est des couleurs que vous avez prises telles quelles, ou alors il y a quand même malgré tout un traitement qui amplifie cette saturation.
Oui, oui, un léger traitement de saturation des couleurs et des contrastes, oui, tout à fait. Tout à fait, il faut vraiment que ça flashe.
Et c'est donc un univers très contrasté, hein, on peut dire. Quelle est cette jonction entre votre perception du monde, hein ? Vous avez l'air d'avoir quand même un aspect plutôt pessimiste dans vos propos. Est-ce que...
Oh non.
Non, pas du tout.
Non, je ne suis pas pessimiste du tout. Je constate effectivement des problèmes que tout le monde constate, mais je suis pas du tout dans un courant de ténèbres. Au contraire, non, au contraire, ce que je présente est très, très, très coloré, très joyeux, quoi.
Mais justement, la couleur. Oui.
Oui, pardon. Même si les textes parlent d'un fond social important, mais toujours avec une grande pointe d'humour.
La couleur, ce sont aussi de grands aplats hein, sur vos tirages, avec un grand dénuement de forme ou de perception à trouver. Qu'est-ce que vous voulez signifier par rapport à ce contexte difficile aujourd'hui et de ces photographies qui laissent une impression de rien laisser paraître en quelque sorte?
Oui, c'est difficile de répondre à ça, parce que, je veux dire, ce que je présente se fait quasi naturellement. Je sais pas.
Pour vous, quel est le processus entre une prise de vue qui vous a inspiré, enfin, une image qui vous a inspiré et de la photographier, et le processus de réflexion qui vous a décidé ensuite de la présenter au public?
Je sens une force d'expression dans certaines images. Comment dire, je sens que quelque chose va se passer. Je peux guère aller au-delà dans ma réponse parce que je j'analyse pas le pourquoi de l'avenir d'un cliché. Non, ça se fait naturellement.
Vous vous définissez comme photographe auteur plasticien. Plasticien est un terme assez générique. Est-ce que vous pratiquez d'autres modes d'expression autour de la photographie, hormis le texte?
Hormis le texte, non. Non, la définition, le critique d'art Dominique Baquet avait défini la photographie plasticienne comme une photographie s'inspirant finalement d'autres domaines artistiques. C'est en cela où je rejoins cette définition parce que je m'inspire plutôt dans le domaine de la peinture, chez les coloristes, chez les minimalistes et sur ce qu'on a appelé les narratifs aussi. Donc c'est en ça où je dis plasticien, puis c'est en opposition. L'opposition, c'est pour se démarquer, c'est pas pour dire que c'est pas bon. En opposition à la photographie de style documentaire qui représentait une certaine réalité dans la photographie. C'est en cela où je me mets dans la mouvance de photographie plasticienne. Et photographe-auteur, ça veut dire surtout travailler un style, travailler une signature. Voilà.
Et vous avez aussi une grande expérience hein, au niveau des salons d'art contemporain. Vous êtes souvent exposé, voire primé. Qu'est-ce que ça vous donne comme ouverture, justement? Est-ce que ça vous encourage dans le travail? Ou alors, est-ce que parfois, vous avez peut-être des périodes de doute ou de remise en question?
Vous avez très bien résumé, oui. C'est vrai que je fais des expos depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. J'en fais beaucoup. J'en avais encore une trentaine cette année. Beaucoup de festivals, beaucoup de salons, etc. Et c'est vrai que être invité ou être accepté, c'est vraiment une prime pour mon travail, oui. Par contre, c'est un chemin qui est pas toujours très facile parce que il faut défendre sa vision artistique et quand on n'est pas dans la mouvance majoritaire, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà. Mais j'ai été content, effectivement, parce que j'ai eu plusieurs séries qui ont été primées dans des salons d'art contemporain. J'ai une série qui vient de faire la Biennale de Venise. Et voilà, ça, c'est très encourageant, en effet.
Vous-même étiez présent pour ce vernissage d'exposition. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver d'ici la fin de cette exposition à Sainte-Croix?
Oui, j'y serai à partir le 29-30 et 31.
Avec peut-être un finissage?
Oui, c'est ça. C'est encore à repréciser avec Frédéric Sauvage, hein, le responsable. Mais oui, je serai présent à ce moment-là. Oui.
Est-ce que le son, pardon, est-ce que le son pour vous, ou est-ce que lors de prise de vue, vous avez parfois peut-être une mélodie en tête qui vous inspire ou qui vous emmène?
Ouais, pourquoi pas. Allez, je vais dire la tendresse de Bourvil.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Pouzet, de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler de cette exposition. D'ailleurs, vous avez un site internet intitulé jeanmichelpouzettoutattaché.com. Je mettrai le lien sur la page de l'émission, sur le site de RDWAP. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Une bonne journée.
Bonne soirée. Au revoir.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.